Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 7 juin 2016. À la une ce soir.
Au Niger, 50 000 déplacés en quelques semaines dans la région de Diffa suite aux attaques de Boko Haram.
Les autorités de Niamey ont décrété 3 jours de deuil à partir d'aujourd'hui en mémoire des victimes de l'attaque terroriste de Bosso le week-end dernier.
55 morts ont été enregistrés et de nombreux blessés du côté des ennemis.
Il y a eu 26 morts dans le camp des militaires du gouvernement.
Au Sénégal, nous vous emmènerons à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Dakar, où les habitants de Thiès rêvent d'un retour au jour de gloire du transport ferroviaire.
Il faut que les trains reviennent, les autorails, surtout les autorails des voyageurs. Dans Thiès, malgré que c'est une grande ville, toute maison que vous rentrez, vous trouvez des cheminots.
Moment historique ce mardi. Pour la première fois, une femme est assurée de représenter un grand parti à la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal. Au Congo, le POUL va recevoir une mission conjointe d'évaluation humanitaire du gouvernement et des agences onusiennes sur place. C'est pour chiffrer les besoins et convenir du soutien à accorder aux victimes des opérations militaires contre les hommes du passeur Toumi. Éric Manirakiza.
Cette mission d'évaluation va durer 7 jours. Il s'agit du premier déplacement du système onusien dans le pôle depuis le 4 avril dernier, le début de violents affrontements qui ont entraîné une situation humanitaire préoccupante. L'armée de Sassou Nguesso a utilisé des hélicoptères pour bombarder les centres de commandement du pasteur Toumi. Ces opérations ont aussi touché les écoles, selon Amnesty International et l'Église catholique congolaise. Le ministre Antoinette Dinga Diondo, ayant l'action humanitaire dans ses attributions, a dit que 3000 personnes se cachent encore dans les forêts. La mission dépêchée devra déterminer les réticences qui retiennent les déplacés en dehors de leur ménage et mettre des recommandations pour l'aide à déployer dans le pôle en termes des besoins humanitaires avec une estimation chiffrée des besoins sectoriels. En revanche, rien n'est indiqué sur le sort du pasteur Toumi sous le coup d'un mandat d'arrêt après avoir perdu son poste de délégué général à la promotion des valeurs de paix.
Toujours au Congo, Charles Zachary Boao, le coordonnateur des deux principales coalitions d'opposition congolaises, l'IDC et le FROCAD, a déclaré avoir refusé aujourd'hui de se rendre à la police qu'il a convoquée dans le cadre d'une enquête sur les attaques survenues début avril dans les quartiers sud de Brazzaville. Enseignant de philosophie, M. Boao coordonne depuis 2015 l'Initiative pour la démocratie au Congo et le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, deux coalitions opposées au changement de la Constitution l'an dernier et ayant contesté la réélection du président Denis Sassou Nguesso.
Crise au Burundi, Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien et facilitateur dans le conflit burundais, rencontrera vendredi et samedi à Bruxelles le CNARED, la plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition. Une information confirmée à l'AFP par des sources diplomatiques africaines et occidentales. Le CNARED, mécontent que ses membres aient été invités à titre individuel, avait appelé ces derniers à boycotter la rencontre de 4 jours consacrée à la relance du dialogue inter-burundais à Arusha du 21 au 24 mai dernier.
Toujours au Burundi, six lycéens mineurs incarcérés et inculpés d'outrage à chef d'État pour avoir gribouillé des photos du président Pierre Nkurunziza dans des livres scolaires ont été remis en liberté provisoire. Les 5 autres lycéens âgés de plus de 18 ans restent en prison.
Le gouvernement nigérien décrète un deuil de 3 jours à compter de ce mardi à la mémoire des victimes militaires de l'attaque de la ville de Bosso par des éléments de la secte Boko Haram le week-end dernier. Des victimes dont le nombre est revu à la baisse, passant de 32 à 26. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami, dont 24 soldats nigériens et 2 soldats nigériens. 112 blessés, dont 111 militaires et une femme civile. 55 morts ont été enregistrés et de nombreux blessés du côté des ennemis, c'est-à-dire des éléments de la secte islamiste Boko Haram. Le gouvernement nigérien revoit donc à la baisse le bilan annoncé par un communiqué du ministère de la Défense nationale. le lendemain de cette meurtrière attaque de la secte Boko Haram contre la ville de Bosso. Un deuil national de 3 jours a été décrété qui démarre ce mardi. Le même gouvernement indique que la ville de Bosso est totalement sous contrôle, contrairement aux informations qui ont fait état du retour des éléments de la secte Boko Haram juste après le passage de la délégation du ministre dans la ville de Bosso. Information pourtant confirmée par plusieurs sources locales, notamment le maire de la localité de Bosso. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Ouganda, tollé de l'opposition après que le président Yoweri Museveni a nommé sa propre femme comme ministre de l'Éducation et des Sports, Edi Isango.
Janet Museveni, épouse du président Yoweri Museveni, a été nommée par un décret présidentiel dans les cadres du remaniement du gouvernement. L'ancienne députée de 67 ans fera, selon les communiqués de la présidence, partie d'une équipe de 80 ministres et secrétaires d'État. Les documents évoquent plutôt des remaniements mineurs au sein du gouvernement. Pour l'opposition, cette nomination relève d'un agenda familial de la part du président Museveni dans la politique ougandaise. Cette nouvelle nomination était attendu, soutient Ken Lukyamuzi, ancien député de l'opposition ayant siégé avec Janet Museveni au Parlement. L'opposition rappelle que Yoweri Museveni avait promu le 25 mai dernier son fils Muhoozi Kainerugaba au rang de général des divisions en charge des commandements des forces spéciales. L'opposition avait affirmé que Yoweri Museveni les préparait à prendre sa relève, mais l'intéressé avait démenti toute idée de vouloir succéder à son père à la tête du pays. Monsieur Museveni, 71 ans, dont 30 à la tête de l'Ouganda, a été réélu en février pour un cinquième mandat de 5 ans avec 61% de voix au terme d'un scrutin très controversé et dont l'opposition rejette les résultats.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, un chiffre qui retient notre attention ce soir. Depuis 2014, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Bagassi Koura, vous avez d'autres détails.
Pour le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Genève, qui donne ce bilan, il s'agit d'un chiffre horrible. En 2014, il y a eu 3 500 morts en Méditerranée. L'an dernier, 3 771, auxquels s'ajoutent 2 814 décès depuis le début de cette année. Depuis 2014, le chiffre de décès en mer Méditerranée ne cesse d'augmenter, a indiqué le porte-parole à l'AFP, pour arriver à plus de 10 000, un seuil dépassé, dit-il, au cours des derniers jours. De son côté, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui ne dépend pas de l'ONU mais qui est basée à Genève, estime que depuis le début de l'année 2016, il y a eu 2 809 morts en Méditerranée, à comparer avec 1 838 morts durant le premier semestre 2015. Aucun décès n'a été signalé en Méditerranée depuis samedi dernier.
L'ultime super mardi des primaires pour la présidentielle américaine a démarré aujourd'hui dans le New Jersey. Dernier grand rendez-vous dans la course à la Maison-Blanche qui doit consacrer la victoire de la candidate démocrate Hillary Clinton. Plusieurs autres États votent également aujourd'hui, y compris la Californie. Jacques Aristide.
Quelques heures avant l'ouverture du scrutin, plusieurs médias américains avaient annoncé qu'Hillary Clinton a passé la barre du nombre de délégués, lui assurant de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour le Parti démocrate. C'est dans ce contexte que les électeurs du New Jersey, dans l'est des États-Unis, ont commencé à se rendre aux urnes. 5 autres États doivent se prononcer ce mardi: Californie, Nouveau-Mexique, Montana, Dakota du Sud et du Nord. La candidate démocrate n'a pour autant pas crié victoire, craignant une démobilisation de ses partisans. Elle espère remporter une victoire symbolique face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a lui immédiatement dénoncé la précipitation médiatique, affirmant que sa rivale ne pourrait pas revendiquer de victoire avant la convention d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. L'adversaire républicain pour la présidentielle du 8 novembre est connu depuis un mois, Donald Trump. L'affrontement entre une femme et un homme d'affaires sans expérience politique serait sans précédent dans l'histoire américaine.
Donald Trump sur la corde raide, le candidat probable des Républicains à la présidentielle du 8 novembre, fait encore l'objet de critiques de la part des dirigeants de son parti après avoir tenu des propos jugés racistes à l'endroit d'un juge. Après Newt Gingrich, pourtant supporter avoué de Trump, aujourd'hui c'est l'actuel président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui a fustigé les propos du candidat. Le magistrat fédéral Gonzalo Curiel, né dans l'Indiana mais d'origine mexicaine, mexicaine supervise les poursuites pour fraude visant l'ex-université Trump. Donald Trump refuse de revenir sur ses propos.
En Syrie, les attaques contre les djihadistes se poursuivent dans la province de Raqqa, fief du groupe État islamique, ainsi qu'à Alep, la deuxième ville du pays. Les FDS, forces de défense syriennes, composées de combattants arabes et kurdes, mènent une offensive au nord de Raqqa, tandis que l'armée de Bachar al-Assad attaque sur le flanc sud. À Alep, où Daesh tente de reconquérir deux zones rebelles, les FDS ont donné l'assaut contre Minbej, point stratégique pour le ravitaillement des djihadistes.
Alors que les efforts visant à relancer le processus de paix israélo-palestinien ne peuvent pas aboutir, l'État hébreu autorise l'expansion de ses colonies en territoire occupé. La mairie de Jérusalem a accordé lundi des permis de construire pour 82 logements dans le quartier de Ramat Shlomo à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. C'est ce que rapporte l'AFP, citant l'ONG israélienne Ir Amim. Ces 82 logements s'inscrivent dans un projet plus vaste annoncé en 2010 pour la construction de 1600 logements à Ramat Shlomo, apprend-on de même source. L'expansion des colonies de peuplement juif dans les territoires occupés a toujours été un nœud gordien dans les efforts de paix au Moyen-Orient.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et maintenant, l'actualité économique. En Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Maïlys Hegel.
Le groupe bancaire Société Générale va bientôt lancer une nouvelle offre à destination des populations non bancarisées dans 6 pays africains, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar et Sénégal. Le groupe français veut créer une offre reposant sur un réseau fédérant petits commerçants et partenaires. Cette information nous provient de nos confrères de Jeune Afrique. En République démocratique du Congo, hausse du tarif des données Internet mobile de 35 à 500% selon les opérateurs et les offres. L'un des opérateurs de téléphonie concernés a démenti toute décision coordonnée ou injonction des pouvoirs publics, mais parle d'une hausse au coût réel de l'Internet mobile en RDC. L'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications a promis une réponse aux médias. Afrique du Sud, le pays attire les entrepreneurs du nucléaire français. Une délégation d'hommes d'affaires français revient tout juste du géant africain. L'Afrique du Sud veut se lancer dans la construction de 6 à 8 centrales d'ici 15 ans. Le but, produire 9600 MW d'électricité pour pallier à son manque chronique d'énergie. Un projet ambitieux pour lequel 5 pays sont en lice, dont la France.
Nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Nicolas Pino. Salut Nico.
Bonsoir Chérubin.
Alors, parlons de la Copa América, l'Argentine en forme.
L'Argentine qui n'a pas eu besoin de sa star Lionel Messi pour dominer le Chili 2-1 à Santa Clara en Californie. Un an après la finale de la Copa América 2015, décidée au tir au but à Santiago, l'Argentine a pris une revanche éclatante sur le Chili dans ce choc très attendu du groupe D. Le Panama, de son côté, a remporté le premier match de Copa América de son histoire face à la Bolivie 2-1, c'était à Orlando. Blas Pérez a inscrit les deux buts de son équipe, 52e au classement mondial. La Bolivie, 79e au classement mondial, a sans doute perdu tout espoir d'atteindre les quarts de finale puisqu'elle doit encore affronter l'Argentine et le Chili, les deux grands favoris de ce groupe D.
Rendons-nous en Italie pour parler de l'infatigable Francesco Totti.
Et oui, Totti, capitaine et légende de l'AS Roma, a signé un nouveau contrat d'un an pour son club de toujours, avec lequel il va donc disputer, tenez-vous bien, une 25e saison. C'est ce qu'a annoncé le club romain. Totti, qui aura 40 ans au mois de septembre, a débuté en Serie A avec la Roma en 1993. Il a disputé 601 matchs de championnat d'Italie sous le maillot romain. Seul Paolo Maldini avec 647 matchs et Javier Zanetti avec 615 matchs ont joué plus de matchs de Serie A que le capitaine de la Roma.
Forfait de Genzebe Dibaba à Oslo, c'est de l'athlétisme.
Ce meeting qui compte pour la Ligue des Diamants, eh bien l'Éthiopienne Genzebe Dibaba, championne du monde en titre du 1500 mètres pour la réunion d'Oslo jeudi, déclare forfait. Les organisateurs n'ont pas précisé s'il s'agissait d'une blessure. Autre défection de taille chérubin pour Oslo, la Bahreinienne Jebet Root sur 3000 mètres steeple. D'origine kenyane, Root, 19 ans, avait réalisé le 28 mai à Eugene aux États-Unis la deuxième performance de tous les temps sur la distance. Le temps, 8 minutes, 59 secondes et 97 centièmes.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour, première escale ce soir, le Niger.
Selon le HCR, au moins 50 000 personnes ont été déplacées lors de l'attaque massive menée vendredi par le groupe islamiste nigérian Boko Haram dans la ville de Bosso, dans le sud-est du pays. La majorité d'entre elles, qui ont tout perdu, se sont rendues à pied dans la ville de Toumour, 30 km à l'ouest de Bosso. Cette attaque est l'une des plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre contre les insurgés en février 2015. Oumarou Boka, membre de l'ONG COPI, de la coopération italienne à DIFA, répond aux questions de Tatiana Mosso.
Elle est vraiment préoccupante, je dirais. La ville de DIFA est actuellement bondée de populations qui viennent de Bosso, de Toumour et même de Kabléwa. Donc un peu partout, c'est des déplacements des gens qu'on voit. Et les gens sont même en train de quitter la ville de DIFA.
Alors quelle est l'urgence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Sachant que les camps de DIFA, par exemple, ne peuvent accueillir que 10 000 personnes. Qu'est-ce qu'il manque?
Bon, en pareille circonstance, vous savez, il manque presque tout aux gens. Il manque les abris, il manque la nourriture, il manque les vêtements parce que les gens ont fui en laissant tout derrière eux. Ils n'ont pu prendre que le minimum. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de presque tout en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'habillement. Ils ont presque besoin de tout en fait.
Alors, c'est l'une des attaques les plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre. Est-ce qu'il y a encore des ONG, par exemple à Bosso, à l'heure où nous parlons, qui peuvent essayer d'aider la population?
À l'heure où nous parlons, à Bosso, il n'y a presque personne. Bosso est vidé de sa population, donc il est très difficile. Je pense qu'il n'y a aucune ONG actuellement qui travaille à Bosso. Mais par contre, à DIFA, toutes les ONG sont là et bon, ils travaillent quand même au minimum.
Alors vous étiez en train de dire qu'à DIFA, il y a une surpopulation et que les gens sont même en train de vouloir quitter DIFA. Mais alors quelle est la solution aujourd'hui? Que font les autorités nigériennes?
Bon, la solution, ce serait que quand même que les autorités communiquent, essayent d'expliquer aux gens, de dire aux gens de ne pas avoir peur parce que c'est la peur qui est en train de faire, de gagner les rangs des gens. Les gens ont peur, les gens ont comme le sentiment qu'ils sont en insécurité. Et depuis la prise de la ville de Bosso, où les militaires se sont retirés de la ville, les gens donc ont peur parce que pour eux, la situation est arrivée à un moment où on ne pense pas que Boko Haram peut mener une attaque de telle envergure. Donc c'est vraiment une surprise pour les gens. Vraiment, ça fait peur aux gens.
Oumarou Boka, membre de l'ONG COPI, de la coopération italienne à DIFA.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
7 personnes, dont 2 Kenyans, ont été arrêtées lundi par la police nationale burundaise. Elles sont soupçonnées de faire le trafic des humains vers les pays du Golfe. Plusieurs dizaines de jeunes filles partent quotidiennement de l'aéroport de Bujumbura vers l'Arabie Saoudite et Oman. Le gouvernement burundais accuse les trafiquants de les envoyer vers l'étranger où elles sont traitées comme esclaves domestiques ou sexuelles. La police a annoncé une enquête. Christophe Kourounziza.
4 jeunes filles burundaises âgées de 16 à 21 ans ont été arrêtées lundi quand elles se rendaient à la police de l'air et des frontières chercher leur passeport de voyage. De même que 3 autres personnes dont un couple kényan et une burundaise qui l'accompagnait. Arrivées à la police des mineurs où ils ont été interrogés par la police, une de ces jeunes filles affirme qu'elle a eu sa carte d'identité par le biais d'un intermédiaire.
Toutes les transactions pour avoir la carte d'identité sont passées par un certain Maja qui habite à Muyinga, au nord-est du Burundi. C'est lui qui organise et qui disait aux filles de changer de date de naissance pour avoir des papiers au niveau de la commune. Et après, la fille pouvait venir et être envoyée avec les autres à l'étranger.
Cette jeune fille ne sait même pas pourquoi elle a été arrêtée par la police.
On venait chercher les passeports à la police de l'air et des frontières. Cette dame-là nous disait que nous allions prendre l'avion mardi, car on devait faire une escale au Kenya. On ne la connaît pas. Nous aussi, on ne sait même pas pourquoi on a été arrêtés. On ne savait pas ce que c'était un délit.
Une femme kényane les a aidés dans le transport et le logement, mais elle avoue ne pas connaître ses filles burundaises. Le porte-parole de la police, Moïse Ngurunziza, a commencé des enquêtes pour savoir si la société Royal Services est impliquée dans ce trafic.
Il y a des enquêtes qui ont commencé pour pouvoir déterminer s'il s'agit aussi d'un cas de trafic des êtres humains. Il est en train de le traiter en collaboration avec les autres institutions, notamment l'administration qui a agréé cette association Royal Services. Après les enquêtes, on pourra faire toute la lumière sur ce cas et on saura s'il s'agit aussi d'un cas de trafic des êtres humains ou s'il s'agit d'autre chose.
Le gouvernement burundais, envoyer des filles travailler à l'étranger n'est pas un problème, mais le ministre des Droits de l'Homme, Martin Niviawahandi, travaille avec les autres intervenants pour stopper ce commerce inhumain s'il est avéré.
Nous avons appris qu'il y avait une société qui recrutait les jeunes filles en direction des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite. Tous les officiels du gouvernement ont appelé à être plus responsables. À notre niveau, nous continuons à mener des enquêtes, mais aussi il y a d'autres instances qui ont continué à faire des investigations pour savoir si cette société a rempli les conditions pour le faire. Mais d'ores et déjà, nous voyons que ce sont des activités qui se font de façon un peu illégale.
Depuis plusieurs années, un commerce des humains est signalé au Burundi dans certains quartiers de Bujumbura bien connus. Les organisations de la société civile appellent le gouvernement burundais à tout faire pour arrêter ce trafic inhumain. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la disparition le 3 juin dernier du champion Mohamed Ali, né Cassius Clay. Nous reviendrons sur la légende de la boxe qui aura définitivement marqué son sport et au-delà, mais aussi sur l'homme, ses engagements et ses coups de gueule. Ses obsèques auront lieu vendredi avec un parterre de personnalités pour lui rendre un dernier hommage. Qui était Mohamed Ali ? Quelles traces laisse-t-il dans le monde et en Afrique ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
L'État camerounais demande aux réfugiés centrafricains de regagner leur camp ou de retourner dans leur pays à cause de l'insécurité grandissante dans l'est du Cameroun. Près de 250 000 réfugiés séjournent dans cette région, nous dit notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Les habitants de Gado-Badjere, zone frontalière à la Centrafrique située dans l'Est Cameroun, assistent ces derniers jours à des cas de vol, des prises d'otages et cambriolages.
Ce que nous vivons ici présentement, nous ne l'avons jamais vu. Tu pouvais laisser ta chose de là dehors, juste le matin tu reviens trouver. Maintenant ce n'est plus le cas. Étant même là, à la maison, on sait que tu es là, on veut forcer seulement.
Il y a toujours des petites agressions qui se passent dans des villages, des coupeurs de route, des ci par là, donc on ne peut pas quand même dire qu'on est en paix quand il y a les problèmes de l'insécurité.
La population de Gado accuse les réfugiés centrafricains venus s'installer dans les localités. Paul Danata, conseiller municipal de Gado-Badjere, s'indigne de la situation.
Dans le camp de Gado, il y a plus de 30 000 réfugiés, ce qui fait que la surveillance est très difficile. Il y a des entrées et des sorties. Ces derniers vont dans des brousses, ils font des exactions, des coupeurs de route, et ils reviennent, ils replient dans leur camp. Ce qui fait que la population de Garoua-Boulay est obligée maintenant de remonter vers la ville. Ils ne peuvent plus vivre dans des brousses afin de cultiver parce qu'ils sont en insécurité. Dans les camps, vous retrouvez surtout les musulmans, mais les chrétiens sont ancrés dans nos quartiers. Nous vivons ensemble avec eux. Ce qui fait que le risque d'insécurité est très élevé. Surtout le risque du VIH-SIDA même parce que toutes les filles de la Centrafrique sont là. Et leur moyen de subsistance ici, c'est la bordellerie.
Les conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés seraient l'une des raisons à cause des manques d'adduction d'eau potable, d'accès limité aux centres de santé et la famine. Face à cette insécurité grandissante, l'État camerounais demande aux réfugiés de regagner les camps ou de rentrer chez eux. Mais beaucoup, comme Deng Deng, ne sont pas prêts.
Je ne compte pas retourner en RCA. Je n'ai même pas espoir là-bas parce que j'ai déjà tout perdu. Et moi, ma vie doit se finir ici au Cameroun.
Il y a environ 250 000 réfugiés centrafricains au Cameroun qui attendent le retour total de la paix dans leur pays pour retourner au Bercail. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'État du Sénégal est décidé à relancer le transport ferroviaire avec une nouvelle société qui remplace Transrail. Thiès est la ville symbole du secteur. Notre reporter Sorhna Natambay a fait un tour à la gare centrale de Thiès qui attend de voir se réaliser les promesses du nouveau gouvernement.
Nous sommes à la gare centrale de Thiès, la cité que jadis ses habitants appelaient avec fierté la ville aux deux gares. Aujourd'hui, c'est un vieux bâtiment qui croule sous le poids de la vieillesse, un endroit quasiment déserté par les cheminots qui s'offrent aux Thiessois. Ce cheminot à la retraite, âgé de plus de 70 ans, vient presque tous les jours à la gare. Il se rappelle nostalgique.
En quittant Dakar pour arriver à Bamako, tu traverses beaucoup d'altes. Si c'est par l'express, il ne s'arrêtait que dans les gares. Mais quant à l'autre rail, ça s'arrêtait dans les altes de Dakar à Kaolack. Tout le monde avait la paix totale.
Moussa Bassoum tient une échoppe depuis 1981 à l'entrée de la gare. Il a donc assisté à cette époque glorieuse.
Le commerce marchait fort bien. L'express en provenance du Mali venait trois fois par semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais en ce moment, il n'y a rien ici. Je reste seulement pour avoir de quoi nourrir ma famille.
D'ailleurs, pour le vieux cheminot, l'économie sénégalaise reposait essentiellement sur le transport ferroviaire. Transrail, c'est la société qui avait en charge la gestion du transport. Après plusieurs années d'inertie et de difficultés, l'État du Sénégal a décidé de reprendre les choses en main. Madiop Diakhaté, chef du service voie bâtiment de Thiès.
Depuis deux mois, Transrail n'existe plus. Nous évoluons maintenant sous le nom de DBF, Dakar Bamako Ferroviaire, avec l'État qui a mis en place un comité transitoire de gestion.
Avec le retard considérable, Dakar Bamako Ferroviaire pourra-t-il se positionner dans l'économie sénégalaise? Madiop Diakhaté en est convaincu.
L'État est en train de dérouler un programme qui à terme va faire de DBF une fleuron pour l'économie sénégalaise, ça c'est sûr et certain. La commande des pièces est déjà partie et le directeur général nous a assuré que d'ici quelques mois, il veut mettre en marche au minimum 8 machines. Et avec 8 machines, nous allons retrouver notre autonomie financière, ça c'est sûr et certain.
Le vieux cheminot a également sa petite idée sur la façon de relancer les activités du secteur.
Il faut que les trains reviennent, les autorails, surtout les autorails des voyageurs. Dans Thiès, malgré que c'est une grande ville, toute maison que vous rentrez, vous trouvez des cheminots.
Tous les jours, deux trains quittent la gare centrale de Thiès pour Dakar. L'un part à 6h du matin et le second à 7h. L'express en provenance du Mali n'a pas fait halte à Thiès depuis belle lurette. Et avec cette relance du secteur, les Thiessois espèrent connaître encore une fois des années glorieuses. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Quelques notes de la musique officielle de l'Euro 2016 pour clore cette édition. Merci à Josèle Morissin qui en a assuré la mise en onde. Souleymane Tarawali était à la console. Présentation, Claire Morin-Gibourg et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos plus d'un million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le monde aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.